Le journal Loïc Barrière. Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine, une offensive menée sur plusieurs fronts. De nombreuses villes ont été ciblées par l'armée russe qui a déclaré viser des installations militaires et des aérodromes. Selon Moscou, 74 installations militaires ukrainiennes ont été détruites ce jeudi après-midi. Les autorités de Kiev disent avoir tué une cinquantaine de soldats russes. Une attaque qui a choqué la communauté internationale. Réunion du G7, de l'Union européenne et de l'OTAN. Emmanuel Macron promet d'appuyer les Ukrainiens sans hésiter. Leur liberté est la nôtre, a dit le président français. Nous écouterons l'analyse de l'ancien député européen Patrick Le Yarrick. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris sera reçu par le pape François lundi au Vatican. Sur Radio Orient, Shems Eddine Hafiz met en avant la fraternité humaine contre les périls contemporains. Enfin, pour voter à l'élection présidentielle, les inscriptions sur les listes électorales sont possibles en mairie jusqu'au 4 mars, jusqu'au 2 mars sur Internet. C'était jeudi matin, à l'aube, une offensive de l'armée russe contre de nombreuses cibles en Ukraine, des explosions dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Kiev. Le président ukrainien Zelensky a décrété la loi martiale et ordonné d'infliger un maximum de pertes aux forces russes. À la mi-journée, la Russie annonçait avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes. L'Ukraine, de son côté, a dit avoir tué une cinquantaine de soldats russes, mais a déploré aussi des pertes militaires et civiles. Vladimir Poutine s'est adressé, lui, à ceux qui tenteraient d'interférer avec la Russie. Ils doivent savoir, a-t-il dit, que la réponse sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Une attaque dénoncée avec force par Joe Biden, les dirigeants occidentaux ou encore le président Erdogan. Le président Macron, lui, a accusé Vladimir Poutine de porter l'atteinte la plus grave à la paix en Europe depuis des décennies. Emmanuel Macron s'est exprimé devant les drapeaux français, européens et ukrainiens en début d'après-midi. On l'écoute.
Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes, sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses. Ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent, afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France.
Emmanuel Macron depuis l'Élysée. Alors que les Européens ont décidé de se réunir pour décider de sanctions contre la Russie, l'OTAN s'est dit prête avant sa réunion de vendredi à renforcer ses moyens militaires à l'est de l'Europe. Réunion aussi du G7 ce jeudi. En France, les principaux candidats à la présidentielle condamnent l'invasion russe. Un rassemblement de solidarité avec le peuple ukrainien a été organisé place de la République à Paris. Je vous propose d'écouter l'analyse de Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité et ancien député européen. Selon lui, Vladimir Poutine est un autocrate qui ne rêve que de puissance et de reconstituer un empire. Patrick Le Yarrick.
Déjà, comme le disait Jacques Prévert, la guerre est toujours une belle connerie. L'acte de guerre que a déclenché aujourd'hui Poutine contre les populations ukrainiennes, d'abord les bases militaires, mais les populations civiles ukrainiennes vont payer le prix, comme d'ailleurs des populations russes demain. Doit cesser très très rapidement et toutes les initiatives diplomatiques, les initiatives de rencontres, de paroles envers le président Poutine de la part de l'Union européenne, de la part de nos pays, de la part de la France et de l'Organisation des Nations Unies doit peser dans ce sens-là. Aujourd'hui, il faut faire cesser cette escalade et il faut faire cesser la volonté de cet autocrate qui ne rêve que de puissance et de reconstituer un empire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité lourde de la part des dirigeants de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, des États-Unis, qui auraient dû respecter depuis longtemps leur parole de ne pas élargir l'OTAN de plus en plus dans l'Europe orientale.
Vous évoquiez ces négociations, ces discussions qui devraient aboutir à des progrès, sachant que l'ensemble des discussions qui ont eu lieu avant la déclaration de cet acte de guerre ont échoué.
Oui, tout à fait. Vous avez raison de me reprendre là-dessus. C'est que il y a bien eu des initiatives de la part du président de la République française, du chancelier allemand, des dirigeants de l'Organisation des Nations Unies, et que le président Poutine n'a pas écouté, je pense qu'il aurait fallu mettre plus sur la table, c'est-à-dire il aurait fallu à la fois geler cette discussion autour des bases de l'OTAN en Ukraine et garantir à Poutine qu'on n'irait pas, et d'autre part, créer les conditions pour réunir une conférence internationale, en tout cas une conférence européenne sur la sécurité en Europe, en y ajoutant les questions d'un nouveau pas vers les désarmements d'un certain nombre d'armes aujourd'hui qui sont déployées dans un certain nombre de pays.
Et quel regard portez-vous sur les sanctions mises en œuvre, notamment par l'Union européenne ?
Il y a toujours des ambiguïtés dans les sanctions, parce que vous savez que au bout du bout, c'est les populations, les travailleurs de chaque côté qui en payent le prix. La population russe qui va manquer d'un certain nombre de choses, mais les paysans, les industriels français qui aujourd'hui ne pourront pas non plus exporter. Par conséquent, oui, on peut imaginer dans certains cas des sanctions, mais elles n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans le passé. La Russie a pris des dispositions de sécurité aujourd'hui. Elle peut même se retourner vers la Chine pour un certain nombre d'échanges économiques, et donc on risque de payer notamment le prix de l'énergie peut très rapidement flamber dans l'Europe, particulièrement en Allemagne et en France. Par conséquent, oui, il ne faut pas mettre de côté cette possibilité, mais je ne crois pas à leur efficacité. Je crois beaucoup plus, moi, à une initiative internationale forte menée sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et non pas du président des États-Unis pour imaginer un processus aujourd'hui d'arrêt de cette guerre et de faire redonner ses lettres de noblesse à la diplomatie et à la discussion.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité et ancien député européen, il répondait à François-Xavier de Calonne. Une rencontre au Vatican aura lieu lundi entre le recteur de la Grande Mosquée de Paris et le pape François. Chemseddine Hafiz rappelle les liens qui unissent les catholiques et les musulmans, une fraternité humaine que le recteur de la Grande Mosquée de Paris veut mettre en avant dans ces temps troublés. On l'écoute.
Depuis mon élection à la tête de la Grande Mosquée de Paris en janvier 2020, j'ai entretenu des relations avec l'Église de France et j'ai échangé avec le Saint-Père pendant toute l'année 2021. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lundi prochain, lundi 28 février, j'ai l'insigne honneur d'être reçu par Sa Sainteté le Pape, qui, je rappelle, a signé il y a trois ans à peine, le 4 février 2019, avec le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Tayeb, la déclaration d'Abu Dhabi. Je dois dire à vos auditeurs que ce texte exceptionnel trace pour moi le plus droit chemin, le droit chemin vers ce qu'on appelle la fraternité humaine et la coexistence. Contre les périls contemporains, les conflits d'intolérance, la dégradation environnementale, le désemparement moral et l'idée fataliste que le monde de demain ne pourra être meilleur. Alors, moi, recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai modestement essayé de suivre ce chemin en me donnant pour mission première la reconstruction. Une reconstruction en profondeur avec et pour les citoyens français de confession musulmane, des valeurs spirituelles, éthiques et humanistes de notre religion, l'islam. Pour moi, la fraternité dans l'unicité divine tisse des liens forts qui ne peuvent pas se rompre. Cette fraternité, elle offre aux êtres humains un chemin lumineux pour se connaître les uns les autres, membres d'une même famille humaine. La fraternité permet de bâtir la paix pour ce monde qui actuellement, nous voyons le ciel s'est assombri, notamment ici en France, avec depuis le début de la campagne présidentielle, on fixe du doigt, on pointe cette religion qui ne plaît pas, les musulmans qu'on ne veut pas considérer comme des citoyens à part entière. Et donc oui, le ciel est sombre et la parole forte du pontife, pour moi, elle est nécessaire. En ma qualité de recteur, je souhaite continuer ce travail formidable qui a débuté en 1965 par l'Église catholique à travers la déclaration de ce qu'on a appelé Nostra Aetate du Concile Vatican II qui, l'Église, à ce moment-là, voulait apaiser, reconstruire ses relations avec les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam. Il est patent que cet appel à la fraternité entre les croyants de religions différentes n'a pas toujours été entendu. Et moi, j'aimerais préciser que, pour moi, il y a un distinguo entre foi et religion. La foi est notre relation avec notre Créateur, relation intime et personnelle avec Dieu, alors que la religion et celle d'approfondir cette foi, d'exprimer et d'entraîner notre foi. Et donc, ce lundi, je vais témoigner au Saint-Père combien fut très importante sa récente visite en Irak, sur cette terre d'Abraham qui est notre père à tous, celui qui a été à l'origine de ce monothéisme auquel les musulmans sont extrêmement chers, à contresens des déracinements et des désorientations de notre époque. En raison, hélas, des inquiétudes et des affrontements, le dialogue interreligieux que je propose à Sa Sainteté le Pape de rouvrir avec l'islam d'Europe, l'islam de France, car il y a des inquiétudes, des affrontements. Et donc ce dialogue interreligieux doit se faire, je l'espère, avec lucidité et sincérité, contre les forces qui se multiplient et qui tentent de nous diviser. Au cours de cette campagne électorale présidentielle ici en France, nous voyons les tentatives de fracturer la société, de diviser, de monter les uns contre les autres, de créer un sentiment haineux contre notamment la religion musulmane et les musulmans. Et donc il faut être lucide. Bien évidemment que nous, en tant que musulmans, nous avons cette lucidité qui est nécessaire pour combattre l'islamisme et le terrorisme. Ces deux fléaux qui sont parvenus à faire oublier que l'islam, religion, notre religion, est avant tout une religion de paix, c'est-à-dire une guidance qui enseigne à l'homme comment surmonter les épreuves de l'existence pour mieux approfondir sa foi intérieure et chercher la vérité avec un grand V.
Le pape François, qui a toujours fait part de son combat contre le repli identitaire que vous évoquiez.
Oui, absolument. Sa Sainteté considèrent que le ciel est notre toit commun, que nous devons les uns et les autres se rappeler que au-delà de nos différences, même, je dirais, de pratiques religieuses, nous avons un même objectif, c'est de nous rapprocher le mieux de notre Créateur. Et donc, c'est un travail, si nous le faisons de manière collective, si nous pouvons nous unir, parce que nous avons beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires, nous avons des gens qui veulent diviser la société, et donc ce travail, ce collectif, ne peut que prospérer, je l'espère, Inch'Allah.
Cheikh Sedine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, au micro de François-Xavier de Calonne. Trois soldats syriens tués par des frappes israéliennes près de Damas, c'est ce qu'annonce l'agence de presse syrienne Sana. Au Maroc, le journaliste Souleyman Raïssouni, condamné en appel à 5 ans de prison pour agression sexuelle, accusation qu'il a rejetée durant son procès, estimant être poursuivi à cause de ses opinions. L'élection présidentielle en France, il vous reste moins d'une dizaine de jours pour vous inscrire sur les listes électorales en mairie. La date limite est fixée au 4 mars et si vous souhaitez vous inscrire en passant par Internet, attention, les inscriptions seront closes dès le 2 mars. Et si on en parlait à 19h et 23h, émission consacrée au dernier numéro de la revue politique et parlementaire, Se réinventer après la crise, Alexis Bachelet reçoit Olivier Babeau, professeur président de l'Institut Sapiens, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Cette édition est terminée à midi et 17h30 vendredi, le journal de François-Xavier de Calonne. Merci d'être fidèle à Radio Orient.